BFM Business, BFM Crypto, les pros. Antoine Larigauderie.
Les pros des cryptos, c'est parti. On termine cette semaine en faisant le tour de l'actualité crypto. Bah oui, parce qu'il n'y a pas que le détroit d'Hormuz, il n'y a pas que les résultats d'entreprise, la bourse, etc. Il y a eu énormément d'actualités dans le domaine crypto, un petit peu tous azimuts. On va peut-être commencer déjà par scruter un petit peu les niveaux techniques des principales cryptos. On rejoint tout de suite Vincent Gann, analyste technique indépendant. Bonjour Vincent.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
Alors oui, la diplomatie a repris un peu le dessus dans le conflit du Moyen-Orient. Les points bas boursiers, est-ce derrière nous sur le plan technique? On commençait à en avoir une petite intuition il y a 10 jours. Est-ce que les marchés sont clairement en train de repartir sur de bonnes bases?
Oui, alors Antoine, la reprise des indices boursiers du marché action depuis le début du mois d'avril, elle est assez significative, elle est même surprenante, eu égard aux fondamentaux, ça ne vous apprend rien, vous en parlez toute la journée sur votre antenne, que ce soit les fondamentaux géopolitiques ou global macro, mais c'est vrai que sur le plan technique, ça ressemble beaucoup, souvenez-vous, à la façon dont le marché s'était repris en avril 2025, à l'issue de l'épisode de la guerre commerciale. Donc ce sont beaucoup de signaux de force que donnent les indices boursiers du marché action. En revanche, moi je reste extrêmement prudent parce que j'estime que les vrais signaux de point bas à aller chercher, les vrais signaux techniques pour valider un point bas boursier définitif sont probablement pas allés chercher du côté du marché action, mais du côté du marché des matières premières ou même des taux d'intérêt. Prenez simplement quatre actifs stratégiques, en tout cas par rapport au conflit du moment, à l'actualité du moment, pétrole WTI, pétrole US, pétrole Brent, le gaz naturel européen ou tout simplement les taux d'intérêt du marché. Sur ces quatre actifs, vous n'avez pas de signaux techniques d'apaisement. Je vais juste prendre, alors je veux pas jouer aux oiseaux de mauvais augure, mais il faut quand même être réaliste. Pour l'instant, il y a une reprise du marché action qui, je pense, surjoue un peu l'apaisement. Prenez simplement le cas du pétrole. Le pétrole brut américain, là, en temps réel, il se négocie à $98. Le minimum légal, pour moi, si vous voulez, pour parler d'apaisement technique, ce serait de revenir sous $90-$95. Et encore, sachez que tout prix du baril qui est supérieur à $80, ça s'applique d'ailleurs aussi au Brent, c'est inflationniste lorsqu'on compare les prix de cette année au prix de 2025. Donc, est-ce qu'on peut parler d'un point bas boursier définitif pour les indices boursiers du marché action? Pour le moment, ça me paraît un peu prématuré sur le plan technique.
Ouais, la poussière a peut-être pas fini de retomber. C'est la question qu'on se pose depuis une dizaine de jours. Mais pour l'instant, on n'a pas de réponse. Et tout ça paraît bien fragile, effectivement. On va regarder le Bitcoin. 72 255 dollars à l'instant. Voilà, c'est un des rares actifs financiers qui soit en hausse depuis le début des opérations militaires le 28 février dernier. Est-ce que la surperformance peut se poursuivre encore quelques jours, quelques semaines?
Ah, effectivement, là, Guillaume, vous relevez un point vraiment important. Je pense que personne n'a vu venir. Et vous savez, moi, je connais même beaucoup d'investisseurs traders qui, au début du conflit, se sont dit Bitcoin est le candidat idéal pour shorter, pour profiter de la baisse. Il va s'effondrer, il sera le premier à s'effondrer. Et il a piégé tout le monde parce qu'effectivement, faites un tour d'horizon des classes d'actifs, des leaders des principales classes d'actifs. Bitcoin est en hausse, et Ethereum d'ailleurs aussi. Alors, c'est pas une hausse significative. D'ailleurs, sur le plan technique, ça change rien. Le jeton, le token est neutre entre 65 000 et 75 000 dollars. Mais il a résisté. Ce qui est notable, c'est qu'il a résisté alors que les métaux précieux, or et argent, eux, ont fortement reculé. Alors, pour autant, cette surperformance, je pense qu'elle peut durer un peu à court terme, parce qu'il y a un narratif porteur, notamment autour du Clarity Act, qui sera bientôt adopté au Sénat US. Et il y a des éléments comme ça qui le portent à court terme, mais il faut quand même être réaliste. Simplement, si on reste dans l'optique purement cyclique, et le fameux cycle de 4 ans dont certains pensent qu'il n'existe plus, moi je pense qu'il est toujours un facteur d'influence. On est en plein milieu de l'année dite de bear market pour Bitcoin, donc je pense que la surperformance, elle peut se maintenir un peu à court terme, mais je ne serais pas surpris que quand même quelque part un peu plus tard dans l'année, on ait un dernier drop du marché crypto pour ensuite une vraie reprise, et que je vois davantage sur les 2-3 prochaines années, donc pas en tout cas ce premier semestre 2026.
Le Bitcoin, 72 207 dollars à l'instant, 2 217 dollars pour l'Ether. Merci beaucoup Vincent Gann. Alors cette semaine, la crypto s'est quand même retrouvée au cœur de l'actualité et pas uniquement pour les cours. L'Iran a exigé des paiements en crypto, en Bitcoin, pour traverser le détroit d'Hormuz. Nouvelle enquête du New York Times, tiens, qui affirme enfin avoir trouvé l'identité de Satoshi Nakamoto. Faut dire qu'il y a quelques semaines, on a trouvé qui était Banksy. Mais on l'a tout de suite oublié. Peut-être que Satoshi Nakamoto sera la même chose. Mais enfin bon, article très complet du New York Times. Et puis on a l'ADAN qui publie son baromètre annuel de l'adoption des cryptos en France. Et on va commencer par là, bien sûr, les pros des cryptos. C'est parti.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.
Avec Louis Laszlo de chez Meria. Bonjour. et Charles-Aubert Couturier de CACEIS.
Bonjour. Bonjour.
Alors, ce baromètre a dans l'adoption des cryptos en France, alors c'est pour cette année, l'adoption des cryptos en France, on était à 11% de Français détenteurs l'an dernier. Est-ce que les nouveaux chiffres sont un peu plus instructifs? Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on stagne? Comment on se situe par rapport à nos voisins européens?
Alors, on était à 11% cette année, un peu plus de 11% cette année, on était un peu plus de 10 l'année dernière. Donc, il y a une petite progression de la part d'investisseurs crypto et de détenteurs de crypto. Ce qui est intéressant, par contre, ce qui change par rapport aux années précédentes, c'est qu'on passe d'investisseurs plus crypto-natifs, traders ou autres, à des investisseurs avertis qui viennent chercher une exposition dans une stratégie patrimoniale plus globale. Donc c'est très très intéressant qu'on voit. Et ce qu'on voit aussi, c'est dans la détention des actifs utilisés. On passe aussi d'une classe de détenteurs de crypto qu'on déteste d'investissement et des convictions sur des thématiques. On a eu l'IA, on a eu un certain nombre de sujets et qui passe aujourd'hui, qui utilise les cryptos comme une exposition à un système financier alternatif, notamment avec une grande part de stablecoin. Stablecoin soit pour avoir une diversification, une indépendance par rapport aux monnaies fiat traditionnelles, ou à une exposition pour aller chercher du rendement avec d'autres produits, et notamment la finance décentralisée. Donc, pas mal de changements par rapport à l'année dernière et aux années précédentes, et une adoption plus mass market, plus de masse, comme un outil et un instrument financier traditionnel.
Après peut-être pour compléter juste sur ce que tu disais, sur une dimension plus européenne, quand on compare, en effet, on est un peu en retard côté français par rapport à d'autres pays, que ce soit la Belgique, les Pays-Bas ou l'Allemagne.
Peut-être Luxembourg,
exactement, qui sont un peu plus en avance. C'est lié à des facteurs, la fiscalité évidemment, c'est un des premiers facteurs. Les autres facteurs qui peuvent influencer aussi, c'est le fait qu'on a beaucoup de poches réglementées d'investissement ici en France, et donc on a vocation à passer par ces poches-là plutôt qu'aller en direct sur les marchés.
Est-ce que c'est
là où on voit pas mal de différences.
Est-ce que c'est peut-être plutôt le fait que les grandes institutions développent pas encore assez de support et de produits intéressants basés sur le Bitcoin?
En fait, ça reste plutôt, si on regarde dans les 2-3 dernières années, ça reste au même dans le même ordre de grandeur. On est entre 10 et 12%, donc c'est vraiment l'épaisseur du trait. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'évolution dans l'offre, comme vous dites juste avant. C'est-à-dire qu'on voit Revolut qui grimpe petit à petit les marches et qui arrive parmi le top 3 des plateformes vers lesquelles on se tourne. Mais il y a encore, il me semble, Coinbase et Binance qui sont les autres plateformes préférées pour aller s'exposer aux crypto-actifs. Parce que les offres bancaires et d'institutions traditionnelles qui vont aller cibler le réservoir de croissance, en fait, les intentionnistes qui sont près de 30% des Français qui se déclarent intentionnistes. Et elles viennent de sortir. Si on regarde BPCE et Exarch, c'est sorti en fin d'année. Si on regarde Santander aussi à niveau européen, c'est sorti en fin d'année également.
C'est un peu comme les clients potentiels. C'est davantage les digital natives qui ont les meilleures offres nécessairement.
Exactement. À date, pour l'instant, c'est ça, et on verra avec les offres bancaires si ça va attirer de nouveaux acheteurs.
Bon, et donc le Bitcoin qui a pas pu s'extraire de l'actualité géopolitique, il a même été droit dedans. Une des nouvelles les plus intéressantes de la semaine, dans le cadre du cessez-le-feu avec les États-Unis, l'Iran a donc annoncé qu'il exigerait un péage en bitcoin pour les pétroliers qui souhaitent traverser le détroit d'Ormuz. Environ 1 dollar par baril, soit jusqu'à 2 millions de dollars par navire. Alors c'est vrai que tout le temps ce chiffre fait bondir, mais enfin sur une cargaison de pétrole, du tanker moyen, c'est un petit billet. Le Financial Times a confirmé que les paiements ont déjà eu lieu. Qu'est-ce que ça dit du rôle du Bitcoin sur le plan géopolitique? C'est vrai que souvent lui est reproché une certaine forme d'opacité qui en fait un support pour les criminels, pour les États voyous, etc. Et puis là, on en remet une petite couche. Qu'est-ce que ça nous dit, ça?
Ce qui est intéressant, c'est que ça remonte une fois de plus à l'essence même de Bitcoin, c'est que difficile à contrôler puisqu'il n'y a pas d'organisme centralisé qui émet et qui contrôle le système. Et donc là, on voit un État qui se soustrait aux sanctions et qui peut utiliser un appareil financier, un système financier qui est universel avec l'ensemble des parties prenantes.
Et en même temps, entièrement transparent.
Et c'est entièrement transparent. Contrairement à ce que le grand mythe de la monnaie pour les pirates et les trafiquants, là, on va être très clairement capable dans les prochaines semaines, le temps de déplier ça et de retrouver qui est qui, mais de savoir qui a payé, combien et de où vers où. Donc ça, ça va être aussi très intéressant. Et je pense que tous les services de renseignement de la planète sont en train actuellement de surveiller ce qui se passe on-chain sur les justement ces transactions-là. Donc voilà, ce qui va être intéressant, c'est justement de voir que Bitcoin prouve une fois de plus sa capacité et le retour à ses valeurs, le fait de transparence, de réduire le nombre d'intermédiaires et autres. Là, c'est utilisé par un État sous sanction. Qui le trouve comme une alternative à Swift et au système de financier traditionnel. Après, ça va pas nous aider pour la publicité pour le Bitcoin et des cryptoactifs, puisque c'est un État sous sanction et on va retomber dans les dérives de c'est la monnaie sale, c'est la monnaie des trafiquants, c'est la monnaie des voyous. Donc voilà, je pense pas que ça soit une très bonne pub pour la classe d'actifs. Mais c'est intéressant sur les fondamentaux.
Mais paradoxalement, je veux dire, l'Iran nous met le nez dedans.
Ah, mais moi, je suis totalement.
Et c'est ça qui est intéressant aussi.
En fait, moi, je le lis à la news qui me semble, c'est pas du Bitcoin only, il me semble, on peut payer en yuan ou en Bitcoin, si j'ai bien compris le passage.
Yuan aussi, oui, effectivement.
Donc, en fait, il faut le voir comme une alternative au dollar. C'est-à-dire que, avant, on aurait payé en dollar, on a ouvert le yuan, et en fait, on ouvre juste un nouveau canal d'acquisition, une nouvelle devise. Et donc, ça, je trouve ça extrêmement intéressant de voir que on le met finalement au niveau des devises les plus importantes de la planète et comme un moyen de paiement qui serait mis à disposition d'autres personnes. Donc je trouve que c'est ça qui est intéressant comme perspective.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que justement l'Iran maîtrise très très bien le sujet, parce qu'ils auraient pu demander un paiement en USDC ou en USDT, mais ils sont très bien conscients qu'ils peuvent se faire geler les wallets à n'importe quel moment, et donc ils ont décidé d'utiliser le Bitcoin comme devise de commerce.
Comme devise alternative, tout bêtement. On est dans la problématique de la dédollarisation.
Et on voit une vraie maîtrise technique et connaissance du sujet. Donc c'est intéressant de voir ça.
Après, tu le disais, niveau transparence, on va pouvoir voir les adresses, tracer les flux. Donc si certaines contreparties ne souhaitent pas traiter, évidemment, avec des adresses sous sanction, etc., ou le régime iranien, ce sera a priori possible via les outils d'analytics on-chain de pouvoir se prémunir de ce type de risque.
Alors, on change complètement de sujet, on en parlait. Le New York Times a publié une enquête signée John Carreyrou, le journaliste célèbre pour avoir exposé le scandale Theranos, on se souvient, dans les biotech. Sa conclusion, Satoshi Nakamoto serait Adam Back, cryptographe britannique et l'une des figures les plus influentes de l'écosystème. Alors, Back dément formellement, c'est pas la première enquête sur le sujet. On se souvient qu'il y avait déjà eu plusieurs noms qui ont filtré pour savoir qui était Satoshi Nakamoto. Mais cette enquête, est-ce qu'on peut lui donner un petit peu plus de crédit que les autres ?
En vrai, ça fait un moment que le sujet revient en boucle. Il y avait HBO qui avait fait un documentaire en grande pompe l'année dernière et qui revenait à peu près dans les mêmes conclusions. Et en vrai, aujourd'hui, est-ce que ça importe de savoir qui est Satoshi? Et je pense que oui, la réponse est oui. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question puisque il reste aujourd'hui un des plus gros détenteurs de Bitcoin et s'il venait à revenir, ça pourrait créer un vent de panique, un peu panique énorme. Après, l'étude, le document et l'article est signé dans le Financial Times, pardon, sur le sujet, revient et reprend des similitudes entre des publications d'Adam Back dans le passé, c'est son positionnement et par rapport à ce qui pourrait être associé, des événements ou des publications associées à Satoshi, et trouve des similitudes. Comme l'étude d'HBO a trouvé des similitudes, comme un certain nombre d'autres éléments, mais rien ne prouve ça. Ils ont demandé aussi des accès à des métadonnées par rapport aux emails d'Adam Back à certaines périodes, ce qu'il a refusé de publier. Et je crois hier matin, il a publié un démenti officiel sur ce sujet, en disant que oui, il avait été dans un certain nombre d'initiatives, oui, il avait publié un certain nombre de papiers, comme depuis 1992 sur les monnaies électroniques, ce qui est un sujet qu'il maîtrise et qui défend depuis longtemps, mais qu'il n'est pas Satoshi Nakamoto, comme il l'a démenti à chaque étude qui le prouve.
Puis je dirais presque, c'est un peu comme je parlais de Banksy là, dans les titres. Ouais. Effectivement, on a découvert le vrai Banksy. Maintenant, on a déjà oublié quel était son vrai nom. Est-ce que c'est si important que ça? C'est un petit peu aussi comme la recette de l'entrecôte, la sauce secrète. Bon, est-ce qu'on a vraiment besoin, une utilité de savoir
alors, qui ça peut être? On a une curiosité et médiatique de le savoir. Après, je pense que c'est pas forcément bien pour Bitcoin si demain on découvrait qui était Satoshi Nakamoto. On n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui puisse influencer le protocole d'un point de vue politique, pas d'un point de vue technique, parce que c'est pas le cas. Mais en tout cas, ça pourrait plutôt poser ce type de questions-là. Donc, à mon sens, pour la résilience du réseau, pour son côté apolitique, etc., etc. Et pour le prix, oui, t'as raison, Louis. Et, accessoirement, il vaut mieux ne pas savoir qui est Satoshi Nakamoto.
Bon, on va parler technologie maintenant avec le quantique. Il y a quelques jours, Google Quantum AI estimait que les ressources pour casser la cryptographie du Bitcoin seraient 20 fois inférieures aux estimations précédentes, ce qui avait fait beaucoup de bruit. Cette semaine, des développeurs ont publié un premier prototype fonctionnel d'outils de récupération de portefeuille qui résiste aux attaques quantiques. Comment vous lisez cette séquence autour du quantique ? Est-ce que c'est une menace pour l'écosystème Bitcoin ? Est-ce que c'est une technologie qui est appelée à l'intégrer et à rendre finalement le Bitcoin plus performant? C'est quoi le quantique pour l'univers des cryptos? C'est un ami, c'est un ennemi, c'est quoi?
Ouais, comme beaucoup de technologies qui dépendent des technologies de chiffrement au sens large, le quantique reste une menace. Pour les cryptoactifs, Bitcoin, mais l'ensemble des cryptoactifs, mais pour n'importe quel système qui fonctionne sur des systèmes de chiffrement, ça reste une menace. Mais des mesures existent, des technologies existent. Aujourd'hui, le vrai sujet, c'est comment chaque projet, chaque blockchain, chaque équipe de développeurs intègre les solutions pour mitiger ces menaces-là. Ethereum l'a fait il y a quelques semaines en publiant sa roadmap des 4 années à venir, si je ne dis pas de bêtises, ou des 3 années à venir, 2010, ouais, bon, peu importe, et intègre un certain nombre de mises à jour pour intégrer des algorithmes de chiffrement résistants au post-quantique.
Ouais.
Et donc sur Bitcoin, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment le faire intelligemment,
ouais,
et obtenir le consensus de la communauté. Donc techniquement, il y a des solutions qui sont possibles, qui sont plus ou moins disruptives. Il y a des solutions qui nécessitent de créer de nouvelles adresses, ou en tout cas de migrer les fonds d'une adresse d'un wallet existant à un wallet résistant au post-quantique. Mmh. Il y a des solutions qui proposent que on change l'algorithme de chiffrement, mais qui nécessite à chaque portefeuille de refaire une transaction pour se protéger. Et après, il y a d'autres solutions qui nécessiteraient aucune migration, donc soit aucun hard fork, soit aucun soft fork, mais qui proposent de changer progressivement dans le protocole l'algorithme de chiffrement, mais par contre qui ferait exploser les coûts de compute et donc de frais de transaction. On parle de 160 ou $200 par transaction, ce qui est inconsidérable dans l'utilisation et dans l'adoption, va totalement à l'adoption. Donc il y a un vrai sujet politique très animé, puisque ça fait un moment que la communauté développeurs Bitcoin a pris le sujet, comme beaucoup d'autres communautés dans les différents écosystèmes. Et techniquement, tout est faisable. Sur les solutions, elles existent déjà, puisqu'elles existent déjà dans les autres industries qui utilisent du chiffrement et qui sont exposées. Par contre, c'est politiquement et socialement que ça va être long, puisque sur Bitcoin, il faut et un consensus des core développeurs pour intégrer ça dans le protocole, qui va nécessiter soit un soft fork, soit un hard fork, et derrière, la mise à jour de l'ensemble des nœuds du réseau. Donc il faut qu'il y ait aussi un consensus de l'ensemble des opérateurs de nœuds pour déployer. Donc on est quand même, il va y avoir une inertie temporelle sur Bitcoin. Ce qui va aussi d'ailleurs très, très intéressant, on parle de inertie de la finance traditionnelle au changement. Là, on est sur un asset qui est censé révolutionner, disrupter la finance traditionnelle. On est sur un changement de paradigme où il va falloir prendre un certain temps pour le déployer. Donc c'est intéressant.
Il y a aussi des considérations en termes de c'est démocratique aussi. Il faut que tout le monde soit d'accord et c'est peut-être pas plus mal. Mais
le lier à la news précédente avec Satoshi Nakamoto, la preuve irréfutable, soit qu'il est vivant, soit que le quantique a cassé le chiffrement, ce serait de voir les bitcoins sur l'adresse de Satoshi Nakamoto bouger. Et donc, ça serait une des deux hypothèses qui pourrait se révéler.
Bon, d'ici que le quantique arrive à craquer le chiffrement, faudra aussi apprendre à savoir voir le truc, parce que c'est quand même assez compliqué. Et un vaste sujet scientifique. Oh là, on attaque un sujet que j'adore, celui des marchés prédictifs. Le truc que tout le monde regarde comme si c'était le nouveau messie, et que c'est le mar de café moderne qui allait nous prédire tout et n'importe quoi. 3 traders sur Polymarket, qui est le plus gros acteur du secteur, auraient misé au bon moment sur un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, juste avant l'annonce officielle. C'est pas le premier cas de ce genre et ça commence à faire jaser. D'ailleurs, cette semaine, des élus au Congrès demandent maintenant à la CFTC, hein, l'autorité officielle, d'enquêter sur des délits d'initiés. Là aussi, ça met le temps, mais... Même quand Donald Trump s'en enorgueillit, personne bouge. Et là, ça commence à bouger un petit peu. C'est quoi l'angle de l'enquête? Comment on pourrait la contrôler?
Aujourd'hui, il y a un vrai sujet autour de ça. Et comme sur les marchés prédictifs, là, il y a une affaire qui est en train d'apparaître, qui est World Liberty Finance, qui a déposé 5% de la supply de leur token World Liberty sur un protocole DeFi et emprunté de l'USDC. Transféré sur Coinbase, donc probablement pour trader, quelques heures avant l'annonce du cessez-le-feu en Iran. Donc, est-ce qu'encore une nouvelle fois, la famille Trump joue dans le délit d'initié, seul l'avenir nous le dira. Et donc là, autour de Polymarket et des marchés prédictifs, il commence à y avoir un vrai débat. Et en vrai, les mêmes questions qu'on peut se poser sur les abus de marché en finance traditionnelle ou en trading crypto. Et donc, se voit se dessiner un Predict Act, comme on a le Clarity ou j'oublie celui pour les stablecoins, mais c'est pas grave, Genius Act, se dessiner avec les mêmes problématiques qu'un marché financier traditionnel, identification des contreparties, abus de marché, respect des leviers, etc. Donc voilà, il va y avoir un certain nombre de sujets qui vont se débattre, mais tant bien que mal, on va arriver à considérer que Polymarket est un exchange, ou en tout cas une bourse d'échange, où on échange sur des prédictions. C'est au fait qu'on échange des dérivés ou des options, c'est pareil. Et donc ça va être... voilà, je pense qu'on va arriver à un cadre régulatoire qui va ressembler plus ou moins à celui des marchés financiers traditionnels.
Mais parce que enfin, à chaque fois, et tout le monde me dit « Ouais, sur Polymarket, on dit que ceci, on dit cela... » Je dis, mais tu vas regarder les cours de bourse et prévoir les cours de bourse sur BetClick, toi. Enfin, c'est un peu la même chose. Je sais pas, mais il y a clairement, il y a justement, c'est le cas de le dire, une volonté de clarification des choses des acteurs.
Oui, tout à fait. Après, moi, je trouve que c'est quand même très intéressant parce que ça crée une forme de produit dérivé, de produit de hedging aussi pour certaines sociétés,
oui,
sur des événements très précis. Donc, on peut l'imaginer demain sur la météo, sur d'autres choses avec des produits qui existent déjà dans le monde traditionnel, mais là, qu'on va pouvoir scaler beaucoup plus rapidement, lancer à moindre coût, solliciter beaucoup plus d'épargne. Enfin, il y a vraiment un intérêt à ces produits-là. En effet, il faut qu'ils soient encadrés. Les risques d'abus de marché sont énormes.
Puis définis, quoi.
C'est... Et définis, exactement. Ouais. Tu le disais, hein, Louis, du filtre à l'entrée, à la sortie, pour savoir qui rentre, qui sort, pouvoir avoir de l'analytics sur qui dépose à quel moment, est-ce qu'il y a des distorsions ou pas dans les volumes qui sont traités, etc. etc. Mais ça... pour moi, c'est assez symptomatique de quelque chose qui n'est pas mature, qui va mûrir, et après, derrière, certainement, qui va, à mon sens, jouer un rôle assez important, en réalité, dans le futur de la finance, les marchés prédictifs.
Sans doute, ça commence déjà, et ça soulève pas mal d'interrogations, c'est vrai. On va terminer avec les arnaques. On a le FBI qui a publié son rapport annuel sur la criminalité liée aux cryptos. En 2025, les Américains ont perdu... 11 milliards de dollars à cause d'escroqueries. C'est un record historique. Quels sont les types d'arnaques qui progressent le plus et comment s'en prémunir? Je vais me faire l'avocat du diable. 11 milliards, j'allais dire, c'est de loin, ça paraît pas beaucoup.
Alors, sur la base des chiffres qui mènent, c'est les chiffres qui ont été recensés sur les plaintes qui ont été déposées.
Alors, déjà,
donc
oui,
déjà, ça... C'est comme quand on compte les chiffres du chômage, on compte ceux qui sont inscrits. Et donc, c'est que sur ceux qui ont été recensés. Et donc, beaucoup en crypto, se sont arnaqués, forcément, ne lèvent pas trop la main pour dire qu'ils sont fait arnaquer en fonction de l'origine des fonds. Donc, il faut remettre un peu les ordres de grandeur. Ce qui, je pense, est intéressant de regarder, c'est la progression d'une année sur l'autre. On a plus 25 ou 30% d'une année sur l'autre,
oui.
ce qui est énorme. Ce qui est assez symptomatique de ce qui ressort, c'est que la démocratisation et l'hyper-démocratisation des outils IA et de la capacité à créer des solutions de plus en plus rapidement réalistes de phishing, d'usurpation, de tentatives de diverses et variées, crée de plus en plus d'arnaques et expose de plus en plus d'investisseurs vulnérables, ou plus ou moins vulnérables, à des arnaques et des tentatives d'arnaques de plus en plus réalistes. Et donc, c'est ça qui ressort de l'arnaque. Et derrière, dans les options de mitigation et d'options de recommandations aux investisseurs, ce qui ressort, c'est l'éducation, l'hypersensibilisation aux bons réflexes, mmh. et on en revient aux basiques de l'hygiène numérique qu'on peut retrouver dans n'importe quelle industrie. Quoi.
Charles Bell, c'est tout bête, hein, mais aussi, par exemple, en France, il y a des règles pour distribuer des crypto-actifs. Ouais. Il y a une liste blanche auprès de l'AMF avec des acteurs régulés. J'invite les personnes qui ont un intérêt pour s'exposer à ce type d'actifs à d'abord passer par ces plateformes-là.
Toujours. Hein. Charles-Aubert Couturier de KCI, c'est Louis Laszlo, directeur technique et produit chez Meria. Merci infiniment d'avoir commenté cette actualité, toujours absolument passionnante, aussi bien du point de vue fondamental que du point de vue technique sur les cryptos cette semaine. 72 302 $ pour le Bitcoin, l'Ether 2221 $. On se retrouve dans quelques secondes pour BFM Bourse. À tout de suite.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.